Je suis donc avec Anka Dan, chargée de recherche au CNRS, au sein du laboratoire AOROC de l'École normale supérieure, archéologie et philologie d'Orient et d'Occident. Anka Dan est aussi professeure attachée à cette École normale supérieure qui nous accueille dans ses locaux, puisqu'on est ici au troisième étage du bâtiment situé au 45 rue d'Ulm. Sous les combles, il y a une petite fenêtre ouverte sur le toit. Le temps est printanier. On est tout à fait confortable dans le bureau de Anka Dan. Alors, Anka Dan est spécialiste d'histoire des représentations des espaces et des peuples. Et ce qui est intéressant, c'est que l'interdisciplinarité est nécessaire déjà pour présenter son travail, parce que c'est un travail qui est à l'interface de la géographie, de la cartographie et de l'ethnographie. Aujourd'hui, on vous rend visite en Anka Dan parce qu'on aimerait parler d'un chapitre d'ouvrage que vous avez écrit dans l'ouvrage collectif publié en janvier 2023 par le CNRS sous le titre « L'interdisciplinarité, voyage au-delà des disciplines » et dirigé par Stéphane Blanc, Mokran Bouzegoub et Martina Knoop. Au sein de cet ouvrage, vous avez écrit le chapitre « Lecture interdisciplinaire de la carte ». On refait l'article, un podcast des bibliothèques de l'École normale supérieure. J'aimerais peut-être pour commencer que vous développiez l'idée pour nos auditeurs que vous mentionnez dans l'introduction, l'idée qui ouvre l'article. Vous dites « Nous vivons la plus grande révolution de l'histoire des cartes, avec en particulier le GPS, comme interface entre les hommes et leur milieu. »
Merci beaucoup, Émile. Effectivement, nous sommes à un moment de carrefour dans l'histoire des représentations des espaces. Nous nous orientons tous avec des GPS. On a du mal à regarder autour de nous, à mémoriser les chemins, même quand ils sont autour de nos maisons ou de nos lieux de travail. Nous envoyons des engins dans le cosmos sur Mars et nous essayons de les faire s'orienter par eux-mêmes. Et moi, je travaille sur l'Antiquité et donc sur l'origine de l'orientation, sur l'origine des méthodes de l'homme de trouver son chemin et de l'exprimer pour d'autres hommes. C'est là que sont les cartes, tout d'abord les cartes mentales qu'on peut retrouver dans des esquisses qui vont parfois au paléolithique, parfois même, disent certains, au-delà des limites de l'Homo sapiens. Donc on a des croquis dont on estime qu'ils représenteraient des lieux faits déjà par les Néandertaliens il y a 40 000 ans, mais cela est discutable. Dans tous les cas, l'origine des représentations de l'espace remonte au néolithique, à l'âge du bronze, et ensuite à l'Antiquité classique, qu'il s'agisse d'espace céleste ou d'espace terrestre. Ce que j'essaie de comprendre, c'est comment, donc c'est une question d'études cognitives, de linguistique cognitive, d'histoire de représentation, comment l'homme s'oriente, comment il exprime cela pour d'autres hommes, et ensuite, quels sont les lieux selon lesquels il s'oriente, parce que, évidemment, avec l'Anthropocène, les lieux, notre environnement a beaucoup changé.
Alors, vous avez mentionné deux termes qui ne sont pas forcément connus de tous, le paléolithique, l'anthropocène. Le paléolithique, peut-être qu'on ne va pas y revenir, je me permets de dire que ça désigne la période qui précède le néolithique, c'est-à-dire la vie sédentaire organisée autour de l'activité d'agriculture et d'élevage des espèces animales. Par contre, pour l'anthropocène, c'est peut-être intéressant que vous nous définissiez plus précisément quel est ce concept.
C'est un concept très problématique aujourd'hui parce que chacun le définit à sa manière. Où commence l'impact humain sur la planète au moment de l'apparition de l'espèce humaine, de l'Homo sapiens qui a vraiment affecté profondément la planète ou au début de l'histoire. Donc c'est une question absolument ouverte pour moi et la question se pose avec l'apparition des cartes. Et donc je parlerai surtout de néolithique quand l'homme se sédentarise, il fait de l'agriculture, il domestique les animaux, il commence à faire de la poterie, ils installent des villages permanents. C'est là qu'on voit une empreinte humaine vraiment consistante sur l'environnement. C'est là qu'on commence à parler d'appauvrissement des sols, de pollution des eaux, d'épuisement des ressources de manière consistante. Et c'est là qu'on commence à avoir des représentations à la fois du cosmos et des lieux que l'homme habite.
C'est intéressant parce que c'est une définition qui, finalement, s'éloigne un petit peu de celle qu'on entend la plupart du temps dans l'espace public, qui est d'ailleurs très relayée par Jean-Marc Jancovici, et qui prend l'Anthropocène comme commençant à l'époque industrielle, c'est-à-dire à la fin du XVIIIe, Et donc, vous vous dites finalement, par rapport à votre objet de recherche, ce qui fait sens, c'est un anthropocène qui commence avec le néolithique, donc bien, bien avant, il y a 10 000, 15 000 ans. D'ailleurs, c'est une question qui est intéressante aussi parce que ce tournant de l'époque industrielle, hein, qui commence fin 18e en Angleterre, en Allemagne, début 19e en France et puis petit à petit en Europe occidentale au milieu du 19e, vous dites que c'est un tournant aussi pour l'histoire des cartes parce qu'on a trop tendance à s'imaginer qu'on a toujours utilisé les cartes à des fins militaires, à des fins pratiques pour s'orienter dans l'espace. Or, vous nous dites dans cet article, dans cette introduction, eh bien non, avant, on n'utilisait pas les cartes comme ça.
Pour pouvoir utiliser une carte pour se déplacer, il faut qu'elle soit précise. Et il faut que chacun puisse l'utiliser selon un code bien connu de tous. Or, cette cohérence de code, à la fois graphique et de contenu, n'apparaît qu'avec les mesures locales de longitude. Donc, la latitude, on savait la mesurer dès l'Antiquité. La longitude, on doit attendre le milieu et la deuxième moitié du XVIIIe siècle pour la mesurer en Méditerranée. Avant cette date, les cartes sont rarement, il n'y a seulement que certains types de cartes qui peuvent être utilisées pour se déplacer, comme par exemple les cartes marines au Moyen-Âge. Mais sinon, les cartes ne servaient pas au déplacement. Le déplacement se faisait par expérience, avec des guides, avec des prisonniers, avec des gens qui connaissaient certains segments des lieux, selon d'autres critères que nous. C'est-à-dire, on peut relire l'Odyssée ou toute autre épopée antique racontant des grands voyages. On voit que les gens ne savaient pas quand ils arrivaient, combien on pouvait prendre en voyage toujours, malgré le fait que ce voyage était répété. Les cartes étaient utilisées, donc avant le XVIIIe siècle, de manière générale. Encore une fois, on ne discute pas des choses précises, des cas précis, pour l'apprentissage, c'est-à-dire pour transmettre une certaine connaissance sur les espaces, et aussi pour certains domaines comme la contemplation dans un contexte religieux ou pour des questions esthétiques, artistiques, parce qu'on a aussi des cartes à l'époque romaine, par exemple, qui décorent les maisons, les murs, les sols.
Hier, dors encore à côté de tes mains. Nos villes se mélangent, mon corps est une orange. Chaque quartier a son heure, mes nuits blanches en couleur.
Ces cartes qui précèdent l'époque contemporaine. Le premier cas que vous développez dans la première partie, que vous avez intitulé « Le plus ancien ciel d'Europe », c'est celui du disque de Nebra sur Unstrut. Je prononce certainement très mal. Peut-être que déjà vous pourriez nous raconter dans quel contexte ce disque a été découvert et nous le décrire.
Ce disque, qui se trouve maintenant au musée de Halle en Allemagne, a été trouvé lors de fouilles illégales, donc par des gens qui se promenaient avec des détecteurs de métaux, en 1999. Il s'agit d'un disque de bronze avec des pépites d'or, c'est-à-dire des incrustations d'or selon la technique de l'or damasquiné. Le disque a 32 cm de diamètre et un poids de circa 2 kg. Ce qui est intéressant, c'est que le bronze nécessaire pour faire ce disque vient de deux endroits différents. Le cuivre vient des Alpes autrichiennes, donc on est à quelques centaines de kilomètres de distance de Nebra, alors que l'étain et l'or vient de Cornouailles. c'est-à-dire de Grande-Bretagne. Ce qu'on voit avec ce disque, qu'on date habituellement autour de 1600 avant Jésus-Christ, de manière indirecte, je vais revenir tout de suite, c'est que déjà à l'âge du bronze, en Europe, on fait du commerce. Et c'est la caractéristique de cet âge du bronze, c'est-à-dire qui succède au néolithique, c'est-à-dire c'est l'âge des grands voyages, de la connectivité, des transports. Je n'appelle pas cela globalisation, comme on essaie de le faire, soit pour l'âge du bronze, soit pour l'Antiquité, soit pour les époques suivantes. Pour moi, la globalisation est aussi tardive, c'est-à-dire je reviens aux questions du XVIIIe siècle, XIXe siècle, avec l'industrialisation et le développement du moyen de transport moderne à travers tous les océans du globe. Avant, on est dans une époque de contact à grande distance, en direct et direct, on le voit bien avec ce disque, mais c'est autre chose que la globalisation. C'est une représentation du ciel nocturne, donc il faut s'imaginer ce disque en bronze, qui n'est pas encore le bronze abîmé par le temps, donc verdâtre, et cette verdure a été confirmée par des analyses, donc par la spectrométrie XRF, on a observé au microscope, donc il s'agit vraiment d'un objet ancien, parce que certains ont mis en doute son originalité. C'est vraiment un bronze ancien, fait donc à l'âge du bronze, donc il y a 3600 ans, et il faut l'imaginer plutôt noir. Donc imaginez-vous le ciel noir, qui, par une analogie macrocosme-microcosme, est représenté sur ce disque, où on voit une incrustation d'or, donc probablement le soleil, un disque jeune, ensuite un croissant de lune, et ensuite une toute autre croissant, quelque chose comme une croissant ou comme une barque avec des stries. Tout cela est entouré par 32 points qui ont été travaillés. Le disque a été utilisé pendant longtemps, donc il y a eu des réparations, des modifications de la disposition. 32 petits points, toujours en or, qui pourraient symboliser les étoiles, et en particulier un groupe de 7 points qui symboliseraient les Pléiades, qui se lève au mois de mars, donc au début du printemps. Sur les marges du disque, les deux marges opposées, il y avait encore une sorte de bordure en or qui s'étend sur 82 degrés d'une part et d'autre, ce qui a pu faire penser à un usage astronomique du disque, parce que les 82 degrés de chaque marge dorée correspond assez bien à la latitude nordique de Nebra, c'est-à-dire 51 degrés de latitude nord. Il s'agit plus exactement, pour les 82 degrés, de la distance entre le coucher et le lever du soleil aux deux solstices d'été et d'hiver.
À un moment, vous parlez de cet objet comme d'un mémogramme, dont l'interprétation ne serait pas évidente. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est qu'un mémogramme ?
S'il me semble évident que cet objet représente le ciel, parce que nous le savons, par exemple chez Homère, dans l'Iliade, ou encore chez les Hébreux, dans la Bible, le Deutéronome, le ciel est d'airain. Et donc là, on voit vraiment un disque d'airain avec les étoiles et les astres principaux, le soleil et la lune, qui sont en or, donc qui brillent. L'or qui a, depuis le néolithique, une symbolistique, n'est-ce pas, c'est un métal qu'on peut manipuler, qu'on ne peut pas utiliser pour des outils et des armes, mais qui est lié au prestige, qui est lié à l'immortalité, qui est lié à la domination, à la lumière solaire, à la royauté. Donc, il est clair qu'il s'agit d'un soleil nocturne. C'est difficile de savoir vraiment de quoi il est question. Est-ce qu'il s'agit d'un événement astronomique particulier ? Et dans ce cas, on pourrait parler d'un mémogramme. C'est un mot qui a été inventé ad hoc, c'est-à-dire que ça serait une sorte d'objet de mémorisation d'un événement céleste qui a choqué les gens. Il pourrait s'agir d'une éclipse de soleil ou de lune. On n'est pas encore d'accord si le disque rond représente le soleil, le croissant, c'est la lune. Mais il faut dire que depuis l'âge du bronze, ces représentations dans toutes les cultures premières correspondent au soleil et à la lune. Ensuite, on a en dessous ces deux choses, un autre petit croissant. Donc, on interprète généralement comme une barque, une embarcation. La question, c'est que contrairement à d'autres cultures, il n'y a rien sur cette embarcation. Donc, on a supposé qu'il pourrait s'agir d'une éclipse solaire qui aurait eu lieu en 1699. Et donc, les gens choqués par la disparition du soleil en 16 avril auraient représenté cette barque du soleil sans l'astre dans la barque. Maintenant, c'est une question si au milieu des terres, comme de côté de Halle et en Allemagne, on pouvait représenter le mouvement des astres sur une barque, comme on le faisait en Grèce. On connaît tous les représentations d'Héraclès dans la barque qui emprunte la barque du soleil, ou en Égypte, n'est-ce pas? Est-ce que c'est possible? C'est-à-dire au Danemark, à peu près à la même époque ou un peu plus tard, vers 1400, on a des chariots. Par exemple, à Trudholm, donc on a un chariot du soleil qui transporte le disque du soleil parce qu'on a des gens donc, qui supposent que le soleil avance sur des terres solides. Que faire d'une barque donc, au milieu des terres? Pourquoi pas un chariot? Pourquoi la barque est sans astre dedans? Tout cela reste des questions et donc voilà, on attend des chercheurs, on attend l'intelligence artificielle, on attend d'autres fouilles, d'autres découvertes. La recherche a encore de la place pour avancer.
On refait l'article, un podcast des bibliothèques de l'École normale supérieure. Et nous, justement, on va avancer, mais dans le temps cette fois, puisqu'on va se projeter 2000 ans plus tard avec la deuxième carte que vous avez choisi d'étudier dans votre article, qui est la map monde d'Albi. Donc on est dans un autre monde, on est dans le monde chrétien, dans le monde du livre. Le livre existe, le livre manuscrit bien sûr, mais le livre quand même. Et c'est donc d'un tout autre objet qu'il s'agit. Est-ce que vous pourriez nous le décrire? Parce que j'avoue que moi, en lisant l'article et en voyant la photo là, qui figure donc sur la page 95, j'ai du mal à comprendre ce qu'il faut voir. C'est là qu'on voit que lire une carte, ça demande une habituation de l'esprit et de l'œil.
Tout à fait, la carte, c'est à la fois le dessin et le texte qui va avec, un texte qui peut être écrit, inscrit ou bien tout simplement oral, comme on le voit dans l'Antiquité. Et donc, dans cet article, j'ai essayé de choisir des objets qui se trouvent à des époques charnières, comme la nôtre aujourd'hui, quand on passe de quelque chose vers autre chose. Donc, on a vu la première carte des cieux, qu'on a conservée en tant que telle. On savait par des textes que ça pouvait exister, mais mon mère, donc le bouclier d'Achille, etc. Donc, on a des représentations mentales qui sont transformées en textes. Là, on est sur des objets qui nous montrent ces représentations, ces cartes mentales. Et donc, ici, on voit avec la map monde d'Albi, donc une carte du monde terrestre connue dans l'Antiquité au Moyen-Âge, qui se trouve dans la ville aujourd'hui française d'Albi, à l'époque du Moyen-Âge en Septimanie. Donc, on est de côté de Toulouse. Donc, une des plus anciennes, sinon la plus ancienne, représentation des terres conservée telle qu'elle jusqu'à nous. La table de Peutanger n'est pas conservée que par un intermédiaire médiéval. Il s'agit d'une copie médiévale du XIIIe siècle, d'une carte romaine qui pourrait être datée autour du milieu du IVe siècle après Jésus-Christ. Ici, on a donc quelque chose dont l'original, le modèle, pourrait remonter au début du Ve siècle après Jésus-Christ. Ce qu'on voit sur cette carte, qui est à l'intérieur donc, d'un manuscrit, donc, il s'agit du manuscrit 29 de la médiathèque d'Albi, que vous pouvez voir en ligne, sur les folios 57-58, très bien digitalisés. Vous voyez une représentation, donc un dessin qui est orienté à l'est, orienté, je parle de Oriens, c'est-à-dire le lever du soleil est en haut. C'est une des plus anciennes représentations orientées. Donc l'orientation, c'est quelque chose de chrétien, parce que c'est pour les chrétiens que ce qui est en haut de la page est le plus important, ça c'est pour tout le monde. Mais pour les chrétiens, le lever du soleil, c'est important, parce qu'on est dans une histoire du salut, et c'est à partir de l'Orient que va venir le salut dernier, selon les textes qui évoquent la fin du temps. Donc, on regarde vers l'est et on voit le bassin méditerranéen avec les cinq îles les plus importantes. De côté gauche, on a l'Europe. Ensuite, en haut, on a l'Asie. Et du côté droit, on a l'Afrique. On a la représentation de quelques fleuves importants, en particulier le Jourdain, parce que c'est une carte chrétienne donc, qui s'appuie sur des modèles hellénistiques et romains. Donc, il y a toute une tradition de représentation des terres depuis l'invention de la géographie par Ératosthène de Cyrène à Alexandrie au IIIe siècle avant Jésus-Christ. Mais cette carte a choisi comme moment de fixation des représentations des terres de ces trois parties du monde, donc qui forment un seul continent, l'ancien monde, le vieux monde. Ce moment serait le 1er siècle après Jésus-Christ, donc le règne d'Auguste, au moment où le Christ est né. et où l'Empire romain avait déjà conquis ces trois parties du monde, Europe, une bonne partie de l'Asie, parce que la carte s'arrête plutôt au niveau de l'Euphrate, Tigre et Euphrate, les deux fleuves qui sont aussi considérés comme deux fleuves du paradis déjà sur la carte, et on voit donc le Jourdain et ensuite le Nil. De l'autre côté, on a un index des vents et des mers que le copiste de ce manuscrit qui est utilisé dans un but didactique, donc pédagogique pour apprendre les espaces, n'a pas écrit sur la carte même, mais pour plus de clarté l'a écrit, mais d'une manière graphique, c'est-à-dire suivant l'orientation sur la page en face. Et donc tout cela forme un seul ensemble. Et à quoi ça sert? Ça servait dans les monastères à partir du début du Moyen-Âge, donc même avant l'époque carolingienne, à apprendre le monde qui est raconté dans les Bibles, dans la Bible et qui est dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, suivre l'histoire de la christianisation, c'est-à-dire les actes des apôtres, anticiper la fin du monde, contempler tout ce monde qui n'est qu'un moment, en fait, dans l'éternité.
Et alors, vous dites que vos recherches philologiques et historiques ont confirmé le fait que le manuscrit avait pu être réalisé à Albi. Ça nous donne l'occasion de rentrer un peu plus dans la matérialité, la méthodologie qui est la vôtre. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ces recherches ?
Tout à fait. Il s'agit d'analyses qui ont été faites au muséum par Lauriane Robinet et ses collaborateurs à l'invitation de la conservatrice d'Albi, Jocelyne Deschaux, auxquelles nous rendons hommage même ici. Donc, on a fait des analyses sur l'origine du parchemin, sur l'origine des couleurs et des encres, et on a prouvé que la qualité du parchemin n'était pas excellente. Donc, c'est ce qu'on pouvait faire en Septimanie au début du 8e siècle. C'est du mouton, il y a un traitement particulier. On a vu les pipins avec lesquels on a dessiné la carte. Il y a déjà l'indigotine, donc celle qui a fait la fortune d'Albi, mais quelques siècles plus tard. Et on a donc des encres qui pouvaient être utilisées sur place. Donc c'est par cette analyse matérielle, faite de manière interdisciplinaire par des chimistes professionnels, qu'on a pu confirmer ce que les paléographes, là on entre dans la philologie, pouvaient déjà deviner par l'écriture visigothique, c'est-à-dire ce type de caractère qui apparaît dans le manuscrit, et ensuite par ce que les historiens pouvaient reconstituer. On est sur une hypothèse actuellement que ce manuscrit donc, a pu être réalisé sur la base de documents portés peut-être d'Espagne au moment de la conquête islamique de l'Espagne, de la conquête arabe de l'Espagne, portée en Septimanie. Donc on a dû avoir une génération de migrants qui se sont établis de côté d'Albi et qui ont fait ces manuscrits pour le scriptorium d'Albi, qui lui-même remonte à l'Antiquité. Pour faire cela, on a utilisé une documentation déjà mise en forme, disons, par Isidore de Séville, donc au début du 7e siècle, on remonte un peu dans le temps, et lui-même, Isidore de Séville, qui, comme on le sait, par ses dictionnaires, par ses travaux, est à l'origine de la somme de savoirs qu'on a beaucoup utilisé au début du Moyen-Âge. Lui-même, Isidore de Séville, a utilisé des travaux qui pouvaient remonter un certain Eucher de Lyon, évêque de Lyon, au début du 5e siècle. C'est un contemporain de Polo Rose, donc celui avec le texte, la description du monde. Et Eucher lui-même, comme beaucoup de gens entre le 5e et 6e siècle, a essayé de réfléchir à ce qu'on continue de réfléchir aujourd'hui, à la meilleure recette de l'enseignement. Qu'est-ce qu'il faut enseigner aux jeunes ? Et à ce moment-là, donc une fin de monde, Eucher, qui était d'une famille aristocratique romaine, un sénateur, se demandait qu'est-ce qu'il fallait enseigner à ses fils qui ont perdu les terres, qui ont perdu le statut social et qui devaient entrer dans les ordres et devenir des moines. Et donc il réfléchit, Eucher, et il a des instructions écrites pour ses fils sur cette nouvelle vie chrétienne qui a besoin d'une géographie, mais pas pour voyager, pas pour faire du commerce, pas pour faire de la conquête, pour la contemplation et pour pouvoir vivre comme les gens le vivraient, les anachorotes dans l'Égypte ou de côté de Sinaï, mais dans des endroits reculés en France aujourd'hui.
Σοφά μίσο προκαθάγε τη τέρπνον. Σοφέ μισθοδότα δίλη επεά, ευμένης παρεστέμι.
On refait l'article, un podcast des bibliothèques de l'École normale supérieure. On va encore faire un saut dans le temps et j'imagine que vous auriez aimé pouvoir faire une station peut-être au 18e ou au 19e, enfin avant d'aborder le 21e, comme on va en parler tout de suite, pour qu'on passe pas si brutalement du monde chrétien, du monde qui cherche à mettre en conformité les représentations mentales et le récit biblique qui semble si éloigné de la réalité topologique de la Terre. Et là, on va passer directement à la modélisation 3D, voire 4D des espaces. J'imagine qu'il y a eu toute une phase de transition très lente et très complexe que vous auriez aimé pouvoir aborder. Peut-être que vous voulez en dire un mot.
Tout à fait. Pour faire ces cartes reconstituées 4D, on va en parler tout de suite parce qu'on insère ici la dimension temps. On doit récupérer toute cette documentation textuelle et cartographique de tous ces millénaires qui nous séparent donc de l'Antiquité. Et je suis passée effectivement précisément pour ces cartes du nord de l'Égée où je travaille en tant qu'archéologue, géoarchéologue, par la cartographie du 18e siècle. Et ici, cocorico, les Français ont eu un rôle très important parce que dans cette région, par exemple, le comte de Choisy-le-Gouffier, donc, qui a eu un peu à souffrir au temps de la Révolution française, mais a pu revenir en France au début du 19e siècle. Lui, il a été le premier à prendre ses mesures de longitude et à nous fournir des cartes très précises des côtes de l'Empire ottoman à l'époque. Donc, indirectement, on passe par cette phase, mesure de latitude, déjà de l'Antiquité, mais généralisée et longitude.
Alors, ça me donne envie de savoir comment... Quelle aventure scientifique a été celle du calcul des longitudes, mais ce serait l'objet d'un autre podcast. On va revenir à votre article et à sa troisième partie qui s'intitule « La géoarchéologie des espaces anciens ». Et vous avez commencé donc à nous parler de ce lieu auquel vous consacrez vos analyses. Donc, on est à Aynos, dans la province turque actuelle d'Edirne. Et vous y avez mené un projet qui s'appelle Lega Cartas, qui consiste à modéliser, c'est ça, le lieu. Est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet ?
Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui de ces cartes anciennes et de tous ces savoirs qu'on peut récupérer des textes, des cartes, mais aussi par l'archéologie ? Eh bien, on peut modéliser les espaces, les paléo-environnements, comme on les appelle dans ces sciences, c'est-à-dire voir comment un lieu a évolué à travers le temps. Évidemment, on ne peut pas le faire sur des espaces très étendus, donc on le fait plutôt à des échelles locales. Et c'est notre cas avec actuellement une mission du ministère des Affaires étrangères en Turquie et un projet par l'École française d'Athènes en Grèce, qui ont été précédés par un projet du CNRS de la mission pour l'interdisciplinarité, le projet Lege Cartas. Et là, on étudie donc le plus grand fleuve de la mer Égée, Ebros, un maritain en bulgare, Meriç en turc, et son embouchure. Pourquoi son embouchure? Parce que pour écrire l'histoire d'un fleuve, une histoire interdisciplinaire avec toutes les disciplines, il faut regarder sa bibliothèque. La bibliothèque d'un fleuve se trouve à son embouchure, où le fleuve dépose tous les sédiments qu'il érode dans son cours. Et donc, il forme un delta, et c'est dans le delta que nous pouvons faire des prospections géophysiques, des carottages géomorphologiques avec des analyses physiques, chimiques. Dans ces archives, nous lisons aussi la biologie, la vie du fleuve, à l'échelle macro, donc macrofaune, micro, avec tous les organismes donc terrestres, aquatiques, de lacs ou de mer qui ont vécu dans cette région-là. Et c'est là qu'on voit aussi l'impact humain, directement par les pollutions, c'est-à-dire les substances que l'homme apporte, par le charbon, c'est-à-dire les traces de feu que l'homme dépose, et ensuite aussi par la dégradation, donc de manière indirecte, dégradation des sols, des eaux, tout ce que l'homme peut faire à la nature. Donc on lit cela dans l'archive du fleuve, et on peut reconstituer par des chronostratigraphies, par des datations carbone 14 ou à thermoluminescence, on peut reconstituer cette évolution de lieu et faire nos propres cartes qui sont désormais en 4D, donc en format numérique, qui nous font aussi réfléchir. Donc le but est à la fois pédagogique, comme toujours dans la cartographie, pédagogique mais aussi de contemplation, parce que ça nous permet de voir ce que nous avons fait à la nature, ce que la nature aurait fait sans nous, et ce que nous pouvons faire en prenant certaines décisions aujourd'hui.
Est-ce que vous pouvez nous donner un exemple de la façon dont cette modélisation en 3D du fleuve ou des côtes a pu changer vos questionnements, peut-être vos problématiques de recherche ?
Cette ville d'Ainos a contrôlé l'embouchure du fleuve Ebre pendant plusieurs millénaires. Donc c'était un carrefour au nord de la mer Égée, qui est elle-même une sorte de mini-Méditerranée du point de vue antique et médiéval. C'était une mer extrêmement importante donc, pour la connectivité. Et Ainos jouait un rôle très important entre la mer et les Balkans. Aujourd'hui, Ainos, c'est une sorte de bourgade à la fin fond de la Turquie, à la frontière avec l'Union européenne, une frontière qui n'est pas ouverte à Ainos, donc on ne peut pas aller plus loin qu'Ainos, qu'Ainos, quand on est en Turquie. La frontière n'est ouverte ni sur le fleuve, ni sur la mer. On a en face, on voit tous les jours l'île de Samothrace, mais nous ne pouvons pas passer parce que cette frontière elle est bien contrôlée entre la Grèce et la Turquie et il n'y a pas de contact maritime que très limité. Donc comment se fait qu'un endroit qui a été un carrefour peut devenir un cul-de-sac ? Et donc pour cela, il y a des raisons d'évolution environnementale, des catastrophes naturelles, en grande partie déterminées par l'homme, par la surexploitation des sols, par la pollution, par la déforestation qui a augmenté la sédimentation et donc a bloqué la navigation tout autour, mais aussi par des décisions politiques, de politiques économiques qui ont fait que, par exemple, les voies ferrées de l'avant 19e siècle ne sont plus passées par Ainos, ou des décisions politiques d'échange de population en 1923 entre la Grèce et la Turquie et la fermeture de ces frontières pour passer un peu plus haut à Ipsala. Donc tout cela ensemble nous font réfléchir à au fait qu'un endroit qui a été très prospère à une époque, il y a 2600 ans, est aujourd'hui un endroit en grande difficulté économique.
Et d'ailleurs, parlons-en un peu de cette économie et de cette politique économique et culturelle de cette ville, de cette région. Comment est-ce que votre projet de recherche, cette valorisation du passé d'Ainos, est approprié par les politiques locales ?
C'est une question très difficile entre la Grèce et la Turquie parce que les sites d'Ainos a été occupé en grande partie par des Grecs jusqu'en 1923 et la population qui est aujourd'hui dans la ville, sur le site, est arrivée pendant les dernières décennies. Donc l'exploration du passé n'est pas une question facile à traiter. En revanche, ils sont très intéressés par la dégradation des lieux et comment améliorer la vie actuellement. De l'autre côté du fleuve, c'est la Grèce et les Grecs qui pleurent évidemment les terres perdues dans la Turquie d'Europe et aussi qui sont intéressés à valoriser leur passé. Donc nous sommes de côté d'un site qui s'appelle Doriskos et d'une ville romaine qu'on cherche encore qui s'appelle Traianopolis, qui a succédé à la ville de Doriskos. Et la ville moderne fondée fin 19e siècle, début 20e siècle, c'est Alexandropolis, celle où on peut aller aujourd'hui. Donc le traitement des lieux est très différent selon les intérêts des gens, les cultures. Ce que nous essayons de faire, c'est de montrer que l'archéologie peut parler à tous, que nous sommes par la recherche une voie d'ouverture. Nous sommes sur une frontière sous grande tension en raison des migrants qui passent ce fleuve, qui mettent leur vie en danger pour venir en Europe. Il faut dire que ce sont des distances de 15 à 20 km par des marécages, des lacs. Maintenant, l'Europe est en train de construire une sorte de mur en métal à travers le delta qui va arrêter encore plus ces migrants qui essayent de passer aussi en s'accrochant à l'île de Samothrace ou d'Imbros, entre Imbros et Samothrace. Donc c'est une situation extrêmement complexe qui nous montre qu'en réalité nous construisons des frontières qui n'ont pas forcément le lieu d'exister du point de vue de la nature. La nature prend son cours, même si elle a à souffrir de l'impact humain. L'impact humain que nous voyons par nos recherches géoarchéologiques est celui donc de la déforestation, de la brûlure des forêts et de la végétation. Donc on a affaire à un appauvrissement de la diversité botanique avec une propagation des herbes moins utiles. On peut voir aussi l'empoisonnement des lagunes et le fait que les hommes, par exemple à l'époque ottomane, ont installé des ateliers de céramique qui utilisaient du plomb. Les lagunes ont été empoisonnées jusqu'à la mort même des micro-organismes, alors que les gens buvaient cette eau contaminée et donc avaient une qualité de vie extrêmement mauvaise qu'on retrouve dans les textes littéraires des voyageurs qui nous racontent que les gens ne vivaient pas beaucoup à l'époque, qu'ils étaient dans une condition de santé très difficile. Donc voilà, on ne connaissait pas tout cela à l'époque. Donc voilà, l'homme ne fait pas que du bien à la nature, mais c'est toujours l'homme qui en souffre pour sa santé de ses conséquences de dégradation naturelle.
Eh bien, on arrive au bout de cet article, on arrive dans le delta du fleuve de mots que vous avez conçu pour écrire cet article. Et j'aimerais que vous reveniez sur cette interdisciplinarité qui est le titre de l'ouvrage et qui a l'air extrêmement prégnante dans les méthodes que vous utilisez, dans les projets de recherche que vous coordonnez. Voilà, vous utilisez des méthodes, des prospections électromagnétiques ou radar. Vous utilisez la paléographie, l'étude des textes, l'archéologie, la modélisation informatique. Donc, on voit vraiment que ça demande des compétences très variées. J'imagine que ça pose des questions sur la formation des archéologues aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un chercheur en archéologie au milieu de toutes ces méthodes ?
Tout à fait, nous sommes à une fin d'époque, encore une fois, non seulement pour les cartes et le passage au numérique, à l'intelligence artificielle, nous sommes aussi à une fin d'époque dans les disciplines académiques, donc une époque qui a commencé au 19e siècle avec la professionnalisation du métier d'historien, d'archéologue. Avant, il n'y avait pas cela, donc avant la fin du 18e siècle, on n'avait pas de département à l'université, on n'était pas prof d'histoire par métier. Et bien maintenant, on arrive à la fin de cette époque qui a duré 200 ans et on fait de l'interdisciplinarité. On forme des gens qui sont capables de travailler entre différentes disciplines, à la croisée des disciplines. Cela ne signifie pas qu'on est spécialiste de tout. Donc moi-même, je reste sur mon petit champ qui est donc Altertumswissenschaften. Je suis une antiquisante qui s'y connaît un peu en philologie, un peu en archéologie, un peu en histoire. Et je travaille avec des spécialistes de toutes les autres sciences, qu'il s'agisse des sciences cognitives, donc pour comprendre les représentations dans différentes cultures de manière comparatiste, qu'il s'agisse des géosciences et des biosciences, où nous avons toujours des spécialistes de géophysique, voire de différentes méthodes en géophysique, de géomorphologie, de géochimie, de paléontologie, et spécialistes de différents organismes que nous retrouvons dans nos carottes ou dans nos fouilles. Et bien sûr, je collabore aussi avec des archéologues qui sont plus ou moins spécialisés dans différents types de bâtis, dans différents types de fouilles, en différents milieux. Donc nous travaillons tous ensemble. Les humanités se tournent vers le travail d'équipe, nous en sommes obligés. Et en réalité, nous inventons de nouvelles spécialisations des jeunes étudiants qui sont spécialistes de ces croisements de disciplines et donc qui sont certes de plus en plus spécialisés et qui sont aussi plus adaptables à l'évolution des disciplines mêmes, des techniques, des machines, de tout ce qu'on peut utiliser. Donc, à la fois, une plus grande spécialisation à la croisée de tout ce qu'étaient les champs traditionnels et une adaptabilité pour l'intégration de nouvelles techniques qui ne sont absolument pas un ennemi des humanités, mais notre plus grande chance, je pense.
Merci Ankadan pour cette conversation passionnante autour de votre chapitre d'ouvrage « Lecture interdisciplinaire de la carte » paru, je le rappelle, dans l'ouvrage collectif publié au CNRS en 2023, L'interdisciplinarité voyage au-delà des disciplines, article que vous pouvez retrouver sur la page PodCloud du podcast On refait l'article. Le lien est dans la description de ce premier épisode. Vous avez été notre première invitée, merci beaucoup. Vous êtes prêté au jeu de la conversion d'une publication en podcast. Tout au long de cet épisode, nous avons été accompagnés par des artistes, des chanteuses, des chanteurs de différents horizons. Vous avez pu entendre, par ordre chronologique, Sophie Morin et sa chanson « Longitude », mais également l'hymne à la muse Calliope et à Apollon de Cléopas Thanasis, à la lyre. Et enfin, vous entendez actuellement les violons de Cyprian Porumbescu, sur recommandation de Ankadan, un morceau qui devrait vous aider à retomber en enfance, puisque c'est vous-même qui me l'avez conseillé. Il s'agit de la balade pour violon et orchestre que l'on écoute actuellement. Simplement, avant de vous quitter, chers auditeurs, sachez que nous revenons dans un mois, avec cette fois non pas un podcast d'archéologie, mais d'épistémologie, c'est-à-dire de philosophie et d'histoire des sciences en l'occurrence. On parlera du problème de la mesure en physique avec Fabien Grégis.